France Musique. Musique et moi, une émission en partenariat avec le magazine Grazia.
Musique et moi.
Camille Pascal.
Elsa Boublil.
Ne rien prévoir est le meilleur moyen d'arriver à tout.
Cardinal de Mazarin.
Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent maraud, prudence, prends garde à ton chapeau. Les gens foutres et les gens probes médisent du vent furibond qui rebrousse les bois, détrousse les toits, retrousse les robes. Les gens foutres et les gens probes, le vent, je vous en réponds, sans souci et c'est justice comme de colle un tampon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent maraud, prudence, prends garde à ton chapeau. Bien sûr, si l'on ne se fonde que sur ce qui saute aux yeux, le vent semble une brute raffolant de nuire à tout le monde. Mais une attention profonde prouve que c'est chez les fâcheux qu'ils préfèrent choisir les victimes de ces petits jeux. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent maraud, prudent, prends garde à ton chapeau.
Un peu de hasard au vent de Georges Brassens pour commencer cette émission avec vous, Camille Pascal, conseiller d'État, ancienne plume de Nicolas Sarkozy, écrivain. Vous avez signé en septembre dernier chez Plon l'été des quatre rois, qui a reçu le grand prix de l'Académie française. Vous avez été directeur de cabinet de Dominique Baudis lorsqu'il était président du CSA, secrétaire général de France Télévisions, mais également professeur d'histoire. Et puis, vous écoutez, je crois, beaucoup de musique en dehors des heures de travail. Mais elle semble très présente, n'est-ce pas ? Bonjour Camille Pascal.
Bonjour Elsa, écoutez, oui, elle est présente. Alors, en dehors des heures de travail, parce que je me suis rendu compte que, notamment au Conseil d'État, où nous partageons des salles très certes prestigieuses, mais nous les partageons à plusieurs, et donc les gens ont des écouteurs. Et moi, je suis incapable de travailler.
Ah, ils ont des écouteurs pour écouter de la musique ?
Oui, vous savez, quand vous consultez la jurisprudence, vous pouvez avoir de la musique, je pense. Mais moi, je suis incapable de ça, incapable d'écouter de la musique et de faire autre chose.
On va pouvoir en parler, parce que ça renseigne aussi beaucoup sur le degré d'appréciation de la musique, cette incapacité à pouvoir faire les deux en même temps. Alors, cette phrase de Cardinal de Mazarin, « Ne rien prévoir est le meilleur moyen d'arriver à tout », c'est une devise, c'est un...
Écoutez, c'est une devise d'ambitieux. Le cardinal de Mazarin, pour ça, est un maître.
Ouais.
Mais c'est surtout cette idée que il faut se laisser porter par le hasard et le hasard des rencontres. Voilà. Moi, vous avez très gentiment rappelé ma carrière. Elle ne doit rien à un projet. Elle doit tout à des rencontres. Et en réalité, je ne me suis jamais dit « demain, je serai ceci ou je ferai cela ». J'ai rencontré des personnalités, parfois non des moindres, qui m'ont donné leur confiance à un moment ou à un autre. On a partagé des moments de vie ensemble, de professionnels. Et puis ensuite, une autre rencontre, une autre opportunité. En fait, j'ai toujours eu du mal à résister à un train qui passait en gare. Et pourtant, je ne suis pas un grand voyageur.
Et puis, cette musique de Georges Brassens, pour commencer, que j'ai choisie pour vous, parce que je crois que Brassens a bercé votre enfance.
Oui, Brassens, c'est le côté paternel.
Ouais.
Brassens, c'était l'idole de mon père. Et il avait ce côté anarchiste de droite. Et c'est une très belle leçon pour la suite de la vie. C'est mourir pour des idées, mais de mort lente, par exemple. Et pour moi, une lampe qui s'allume quand on a tendance à soi-même se prendre pour les idées que l'on porte. Et puis surtout, vous savez, il y a une chose très particulière. Je suis languedocien. Je suis né à Montpellier.
Ça s'entend un peu.
Oui, et je suis... Et Georges Brassens, c'est toi. Et il a parfaitement l'accent de mon enfance, parce que ce qui est absolument extraordinaire, que évidemment tout le monde en France peut aimer Brassens, qu'on soit à Brest ou à Strasbourg. Oui. Mais ce qui est pour moi très marquant, c'est que j'ai entendu Brassens, la musique de Brassens sur des micro-sillons toute mon enfance, mais il a l'accent de mon enfance, c'est-à-dire qu'il a l'accent des gens qui étaient autour de moi, de mes parents, et voilà. Et donc c'est un double bain dans l'enfance.
Et puis j'imagine, on va pouvoir en parler, mais cette poésie qui est propre à Georges Brassens, je crois que vous y êtes très sensible.
C'est une langue simple et extrêmement évocatrice.
Camille Pascal, vous êtes l'invitée de Musique et Moi ce matin jusqu'à 12h30 sur France Musique. 1h30 en musique pour parler de vous à travers vos goûts musicaux. Marche turque interprétée par Claudio Arrau de Mozart, bien sûr. Pour commencer cette émission avec vous, Camille Pascal, c'est un souvenir d'enfance, c'est votre premier souvenir musical?
C'est un souvenir très lointain, parce que je crois que c'est un souvenir d'une musique que l'on avait dû nous faire écouter en maternelle, pour un petit spectacle. Et j'avais trouvé ça très amusant. Alors, il faut dire que je suis d'une famille traumatisée par la musique classique. Ma grand-mère, qui avait reçu, bon, voilà, ce qui était une éducation bourgeoise, donc, avait gardé un souvenir, mais traumatisé du piano. Et alors donc,
Pourquoi, vous savez?
Ah ben à cause des coups de règle sur les doigts, vraiment. Et donc, quand elle est devenue, j'allais dire, maîtresse de maison, elle a pratiqué un véritable auto-da-fé, c'est-à-dire qu'il y avait dans la maison de famille 4 pianos, un à chaque étage, et elle les a tous fait brûler.
C'est vrai.
Donc, c'est vous dire, elle n'a gardé que les lampes de piano pour mettre dans les... Parce qu'elle trouvait que ça faisait de jolies appliques dans les couloirs. Voilà. Et donc, il y avait une sorte de elle avait transmis donc à ses filles et à moi une sorte de refus de la musique classique. Et donc, c'est venu comme ça, par... à la fois l'école, puis ma mère qui ensuite s'est mise, et puis voilà les amis. Mais c'est vrai que nous étions une maison réfractaire. Je crois qu'une rare maison où on a brûlé les pianos.
Ah, et cette marche turque, alors du coup, comment vous est-elle venue aux oreilles ?
Mais par l'école.
Par l'école.
Par l'école.
Et donc dans cet univers.
Et quand j'en avais parlé, pardon, à ma grand-mère, elle m'a dit ah, arrête, c'est un cauchemar. Donc, vous voyez, c'est incroyable hein, comme histoire.
Vous avez vu les pianos brûler ou...
Non. C'est elle qui m'a dit mais tu sais, j'ai brûlé tous les pianos.
Incroyable.
Ou vendu.
Donc ça, c'était à Montpellier, ce que vous disiez tout à l'heure. Dans cette enfance où la musique était donc pas tout à fait présente, vous rêviez de quoi, vous, Camille Pascal ?
J'ai toujours rêvé de tout. Ouais. Je ne saurais pas vous dire de quoi en particulier, mais je suis fils unique. J'ai été élevé par des femmes, dans une maison de femmes, toutes féministes et qui ont fait de moi, je pense, un informatiste. Enfin, c'est le fait, c'est ce qui arrive, me semble-t-il, à tous les gynécées. Et donc, j'étais très protégé, en réalité. Je me rends compte d'ailleurs à quel point, même si mes parents ont divorcé, même s'il y a eu des situations compliquées, à quel point, et surtout quand je regarde par rapport à mes enfants, j'ai eu une enfance et même une adolescence, extrêmement protégée. Nous habitions une maison de famille. J'ai vécu la province de Mauriac, une espèce de douceur de vivre. Tout était très loin. Vous savez, Montpellier, il n'y avait pas le TGV. Paris paraissait à des années-lumière. On se partageait entre Palace les Flots et les contreforts des Cévennes pour aller chercher du thym et du romarin. Je suis très proche, alors quand je dis à mes enfants, regardez un pagnol avec moi, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est mon enfance, voilà. J'ai eu une enfance assez pagnolesque.
Avec vos enfants, on va pouvoir en parler dans quelques instants, mais donc il y a pagnol et il y a Offenbach que vous n'arrivez pas à partager, visiblement.
Tu n'es pas beau, tu n'es pas riche, tu manques tout à fait d'esprit. Tes gestes sont ceux d'un gadiche, d'un soldat manque dont on rit. Le talent, c'est une autre affaire, tu n'en as guère que de talent, de ce qu'on doit avoir pour plaire, tu n'as presque rien.
l'acte 3, scène 5 de la péricole « Tu n'es pas beau, tu n'es pas riche » de Jacques Offenbach, interprété par Régine Crespin avec l'orchestre de la Suisse romande sous la direction d'Alain Lombard. Offenbach, donc, je le disais, Camille Pascal, que vous n'arrivez pas à partager avec vos enfants, c'est une passion de longue date.
Alors oui, c'est très ancien. En écoutant Régine Crespin, j'étais en train d'essayer de retrouver quand, comment je suis entré en contact avec Offenbach.
Oui, ça m'intéresse.
Je devais avoir 10-12 ans. Mmh. Est-ce que c'est un ami de la famille, de ma mère? Alors ma mère était dans une grande période wagnérienne à l'époque. Et moi, j'ai toujours eu horreur de Wagner et de la musique allemande en règle générale. Je suis désolé pour les auditeurs qui nous écoutent, qui trouvent ça effrayant. Alors est-ce que c'était une façon de réagir parce qu'évidemment, entre Offenbach et Wagner, il y a un monde. Mmh. Même si je pense que, contrairement à ce qu'on a trop souvent dit, la musique d'Offenbach est extrêmement savante. Mais j'adorais. Voilà. Et surtout, je riais aux éclats. Voilà, donc ça me faisait rire. Donc les livrets sont extraordinaires, les personnages, la grande duchesse de Gerolstein, la belle Hélène. Voilà, tout ça me faisait vraiment beaucoup rire. Et j'écoutais Offenbach à tue-tête. Donc ma mère fermait la porte de ma chambre pour écouter Lohengrin. Et donc voilà, c'était une petite guerre musicale entre elle et moi. Alors récemment, j'ai téléchargé la belle Hélène, j'ai voulu le faire écouter aux enfants qui ont poussé des hurlements en se demandant, mais dans la voiture, et ce que pouvait être cette musique. Donc je ne suis pas allé au-delà du premier acte.
Mais vous expliquez ça comment, que vous n'ayez pas réussi à faire partager cette passion? Parce que visiblement, c'est aussi le texte qui vous plaît.
Oui, mais je crois que c'est une question de civilisation. C'est comme le cinéma d'entre-deux-guerres. C'est le texte qui me plaît. On parlait de Pagnol tout à l'heure. Moi, j'ai une révérence extrême pour Guitry, son théâtre et son cinéma, qui, soyons clairs, se résume essentiellement à la qualité du français, des dialogues et à l'esprit. Et l'esprit français. Et les enfants, je crois, aujourd'hui, ont peut-être plus de mal à prendre le temps de décrypter, parce que tout ça est fait de double sens, de jeux de mots. Au fond, c'était une langue, le français, qui était très utile parce qu'elle permettait de dire des choses au deuxième, voire au troisième degré, peut-être pour passer au-delà de la bienséance ou d'une certaine censure morale. Et aujourd'hui, on a l'habitude de tout s'envoyer directement à la figure. Donc, l'esprit est une chose qui va évidemment disparaître.
Et alors justement, pendant ce temps-là, pendant que vous étiez fasciné par cet esprit, votre mère, elle, était fascinée par Richard Wagner.
C'est assez rude.
Oui, c'est pour vous, c'était difficile, Parsifal, par exemple.
Ah, moi, j'en ai... Alors, elle écoutait, vous savez, c'était des grands disques, elle doit toujours les avoir, d'ailleurs. C'était des grands micro-sillons dans des coffrets couleur chocolat allemand, là, et doré, façon, avec Karajan, évidemment, le dieu. Voilà, et ça m'ennuyait mortellement.
On en écoute quand même un extrait. Höchsten Heiles Wunder, la fin donc de Parsifal de Richard Wagner par l'orchestre et le chœur du Metropolitan Opera de New York sous la direction de James Levine. Je voulais diffuser Camille Pascal parce que j'avais envie qu'on parle avec vous de ces musiques que vous ne parvenez pas à apprécier malgré tout. Votre mère n'a pas réussi à vous transmettre cela.
Non, il y a d'autres choses qu'elle n'a pas réussi à me transmettre, hein, vous savez. Le goût du sport, ça a été une grande sportive olympique. Bon, mais je suis hermétique à certaines musiques. Je trouve que c'est une musique totalisante. Je n'emploierai pas le terme de totalitaire parce que ce serait la tarte à la crème et que j'ai horreur de la bien-pensance. Mais c'est une musique qui vous met devant un choix clair où vous vous laissez conduire ou vous partez. Et moi, je suis parti.
Pourtant, je me disais que ça pourrait vous toucher. Richard Wagner disait à sa femme Cosima, peu de temps avant de se mettre à l'écriture de Parsifal, « Je ne parviens pas à relier la réalité avec l'idéalité. »
Je comprends même pas ce que ça veut dire.
C'est vrai.
Donc, vous voyez, je suis sorti tout de suite. Donc, Wagner est certainement beaucoup trop intelligent pour moi.
Modifier, apprendre à apprécier les choses avec le temps, ça ne fait pas partie de votre univers, Camille Pascal?
Non, je déteste pour tout ce qui est le plaisir. Et je considère que la musique, la lecture, l'art sont des plaisirs. Je déteste que l'on m'explique ce qu'il faut faire, ce qu'il faut avoir lu. Il n'y a rien de pire pour moi que quelqu'un qui me dit « Ah, voilà un livre qu'il faut que tu lises ». Ben non, je ne le lirai pas. Voilà, parce que je ne le lirai pas.
Alors, comment vous faites ?
Mais c'est, j'ai ça, depuis très jeune, je suis attiré par un livre, par une, voilà, et c'est un cheminement personnel. Et j'estime que cela relève de ma liberté.
D'accord.
Et que tout ce qui vient empiéter sur cette liberté m'est insupportable. Voilà. Alors, je passe certainement à côté de choses très belles, très intelligentes, formidables, mais c'est moi qui le décide.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Camille Pascal, conseiller d'État, est donc l'invité de Musique et moi ce matin, jusqu'à midi et demi. Alors, comment avez-vous fait votre chemin musical, du coup, Camille Pascal, par vous êtes autodidacte?
Oui, on peut dire ça comme ça, parce que bon, à côté des goûts musicaux, notamment de ma mère, qui était... Voilà, qui m'a fait
partagé.
Aussi quand même, au-delà de Wagner, fait découvrir l'opéra, qui m'a, avec elle, je suis allé à Aix-en-Provence, à Orange. Bon, c'est pas, voilà, quand on est jeune, quand on a 14, 15 ans, c'est pas rien. Mais c'est parce que quand je suis rentré en troisième, il y avait un garçon qui était avec moi et on a discuté et voilà, on devait pas être tout à fait, on était intéressés par les mêmes choses. Et il est devenu c'est David Belugou, il est devenu un grand metteur en scène et décorateur d'opéra. Mmh. Et je lui dois beaucoup parce que lui, pour le coup, me disait, ah, mais, tu pourrais écouter ceci ou cela. Et j'ai découvert. Alors, il faut dire que c'est aussi une question de génération. C'est que nous sommes au début des années 80, hein. Voilà, j'ai entre 15 et 18 ans. Et c'est l'âge d'or de la musique baroque. Et j'ai eu pour cette musique un coup de foudre qui n'a jamais cessé.
Thank you.
L'air de la femme israélite, extrait de Samson de Handel, interprété par Joan Sutherland avec l'orchestre de l'Opéra Royal de Covent Garden sous la direction de Francesco Molinari Pradelli, et qui nous renvoie à cette passion naissante, je vois, donc à la fin de l'adolescence, Camille Pascal, pour la musique baroque et Handel en particulier.
Oui, j'ai la chair de poule, moi, en écoutant cet enregistrement de Joan Sutherland. C'est un des premiers disques que je me sois acheté. Je me souviens, ils étaient soldés parce que c'était un ancien enregistrement. Et il y avait à l'époque à Montpellier un disquaire qui s'appelait La Boîte à Musique, qui vient de fermer, et chez lequel j'allais tout le temps. Et comme les libraires, les disquaires étaient des vrais maîtres, et donc ils nous conseillaient. Et parfois, je me dis que j'ai eu une enfance et une adolescence qui n'a rien à voir avec ce que vivent aujourd'hui les adolescents, parce que à l'époque, dans une ville de province comme Montpellier, à 14-15 ans, on pouvait se balader, on pouvait aller passer sa vie entre la librairie et chez le disquaire. Et c'est lui qui m'avait conseillé ce disque. Et je crois que j'ai écouté ce disque, je sais pas, pendant 3 ans, quasiment 2 fois par jour.
Mais alors, en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est un disque, surtout de bel canto. Que à la fin, il y a Handel qui apparaît, mais on voit qu'il y a surtout des airs de Verdi.
Il y a quelques airs de Verdi, mais il y a surtout il y a Arne, Paisello. Elle est représentée d'ailleurs. La cantatrice est représentée en robe 18e sur la pochette, enfin, dans une sorte de faux natier. C'est une musique qui m'a immédiatement parlé et qui touche à la sensibilité avant même d'approcher la raison. Et donc, d'une certaine façon, c'est une musique qui n'a pas besoin d'être comme Wagner, d'être approchée, domestiquée, comprise. C'est une musique qui est sensuelle, qui parle directement au sens, et c'est l'esprit du baroque, pour élever l'âme. Et donc, pourquoi ces accents particuliers, notamment ceux de Handel, m'ont à ce point touché et continuent à me toucher, ça je ne saurais pas le dire. Mais ça a été immédiat.
À ce moment-là, donc vers 14-15 ans, il y a cette passion qui se développe pour la musique baroque, Camille Pascal. Est-ce que c'est à ce moment-là aussi que vous sentez que vous allez, puisque vous allez à enseigner l'histoire, c'est votre premier métier, est-ce que vous savez à ce moment-là que vous allez vous diriger vers ce type d'études littéraires, donc, et puis d'histoire?
Non, parce que, encore une fois, dans une enfance protégée, vous ne vous demandez pas quelle sera votre carrière, ce que vous ferez. J'avoue que je me suis inscrit un peu par hasard en hypocagne à la fin de ma terminale, mais à l'époque on n'avait pas tous ces systèmes de où il fallait décider dès la première. Moi, j'ai pas été un très bon élève. Je me suis réveillé en première parce que comme je lisais toute la journée, évidemment mon professeur de français a été un peu étonné que je lui cite les auteurs du XVIIIe siècle, que ce soit Nercia ou Crébillon fils. Donc, mais parce que je les avais lus. Alors en plus, comme on les trouvait pas en librairie, j'allais les acheter avec mon argent de poche chez les libraires de livres anciens, et donc chez les bouquinistes. Voilà, donc là, je me suis dit, tiens, tout ce que tu aimes, tout ce que tu regardes, tout ce que tu écoutes, peut éventuellement te servir dans le cadre scolaire. Mais jusque-là, j'étais nul.
Perché mi tradi?
Caroline Sampson interprète cet extrait de la cantate Armida Abbandonata de Handel avec le King's Consort sous la direction de Robert King. Et c'est pour parler avec vous, Camille Pascal, de cette passion pour Handel qui m'intéresse beaucoup. Est-ce que vous connaissiez cette cantate ?
Oui, bien sûr, bien sûr. C'est presque une de mes cantates préférées. Ah. Encore que j'ai du mal à faire le tri et faire le choix chez Handel. Je crois que j'ai à peu près tout ce qui est disponible dans la discographie de ses œuvres pour le théâtre, enfin lyrique. Il y a chez Handel à la fois la sensualité et la grandeur. Et ce sont deux choses qui me touchent immédiatement. Handel comme Bach a fait le voyage en Italie. Ouais.
Là, ce sont d'ailleurs des cantates italiennes. Italiennes,
ouais. Et ces deux auteurs qui sont des Saxons, enfin qui sont plutôt, ont sublimé l'Italie. Et moi, j'ai un attachement presque charnel pour l'Italie. J'ai la seule langue que je comprends et que je parle à peu près décemment, et encore que c'est l'italien. Il y a dans le rythme, il y a dans l'usage des cordes, quelque chose qui fait vibrer immédiatement la sensibilité.
Oui, là, par exemple, les cordes qui nous font sentir le vent.
Oui. Voilà, c'est on
ça.
A froid.
On a froid, exactement. Et puis, il y a cette notion d'amour. Je me suis demandé si vous y étiez sensible, parce que quand même, là, il est question d'une femme qui essaye de se guérir de son abandon. Et donc, il est question d'amour passionnel, là.
Oui, mais parce que c'est une musique passionné, passionnel. Mmh. C'est pas une musique qui se meurt. C'est pas une musique que même la plainte est sensuelle. C'est-à-dire que c'est comme Didon, c'est comme tous ces grands personnages. Leur soupir de désespoir sont encore des soupirs de plaisir.
Mmh. Est-ce pour cela que vous avez choisi le Dixit Dominus pour votre mariage qui a eu lieu il y a 30 ans
très exactement.
Ah, ben c'est beau ça.
Voilà.
Est-ce pour cette raison donc que vous avez choisi le Dixit Dominus, parce que là aussi pour un mariage avec votre épouse vous vous êtes dit on a envie de cette œuvre religieuse.
Oui, et parce qu'il y avait la sensualité de la musique et la grandeur de l'engagement
qui dure.
Thank you.
Dixit Dominus, du Dixit Dominus de Handel, interprété par Vox Luminis, sous la direction de Lionel Meunier. Alors, c'est la première grande œuvre religieuse du compositeur. Il avait 22 ans quand il a composé le Dixit Dominus, Camille Pascal. Et là aussi, on est en Italie. Encore une fois, on parlait de ce choix musical pour votre engagement dans la vie avec votre épouse. L'Italie est très présente, vous le disiez tout à l'heure, c'est la proximité géographique qui...
Oui, je considère l'Italie comme ma deuxième patrie. Voilà. Tout le monde dit que je suis européen, moi je suis français et un peu italien. Donc j'ai grandi à Montpellier et donc il était plus facile d'aller à Florence ou même à Rome que d'aller à Paris. Enfin, c'était presque plus logique quand vous êtes dans le bassin méditerranéen. Et donc j'étais très 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 mauvais en langue parce que j'avais fait de l'allemand en première langue et que c'était une catastrophe. On s'est dit vite il faut lui faire faire de l'italien. Et donc j'ai fait l'italien, je ne suis pas un italianiste distingué, mais entre 16 et 18 ans, je suis allé tous les étés un mois ou deux en Italie. Et ça reste, c'est des lumières, puis c'était l'Italie du début des années 80, on pouvait pousser toutes les portes, rentrer partout. C'est l'Italie de Dominique Fernandez.
Oui, et puis alors là, le Dixit Dominus a été créé donc... à l'église romaine de Santa Maria in Monte Sante, Piazza del Popolo. Là, j'imagine que quand vous été à Rome, vous avez pensé, comme futur historien, on relit toujours, j'imagine.
Bah, Rome, c'est là que tout commence et que tout se termine. Et j'ai une passion pour Rome. Je n'aurais pas la prétention de dire d'ailleurs que je connais Rome, mais j'ai une passion pour Rome. Je crois que Rome est la seule ville au monde dans laquelle j'aimerais vivre.
Et c'est là qu'on en vient à cette passion aussi qui est née, qui a été grandissante pour l'histoire. Vous avez été professeur d'histoire pendant combien de temps, Camille Pascal ?
J'ai enseigné l'histoire à l'université, mais aussi dans l'enseignement secondaire pendant 5 ans.
C'est tout ?
Oui, après j'ai été happé par la vie politique et administrative.
Alors pour en revenir à la phrase du cardinal de Mazarin citée en début d'émission, qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle a été cette première rencontre qui vous a happé ?
Eh bien, je m'ennuyais sur une thèse que je n'ai jamais terminée, quand j'ai reçu un coup de fil d'un ami qui était au cabinet de François Bayrou. C'était en 95, à l'époque, ceux qui sont de ma génération s'en souviennent, peut-être un peu plus âgés s'en souviennent, c'était les grandes grèves étudiantes de 95. Le ministre avait besoin d'un agrégé sachant écrire. Et je suis arrivé avec mon cartable, rue de Grenelle. C'était très amusant parce que j'ai été reçu par le chef de cabinet adjoint, puis par le chef de cabinet, puis par le directeur de cabinet. Puis tout d'un coup, est arrivé le ministre. Il m'a dit « Ah, c'est vous l'agrégé de sachant écrire ?» Alors, je suis resté interdit. Et il m'a amené jusqu'à mon bureau, voilà.
Et ça a commencé comme ça ?
Oui, ça a commencé
sans
comme
entretien,
ça.
Sans entretien ?
Non.
D'accord.
Et donc, alors j'étais stupéfait. Je ne connaissais rien. Ça fait toujours rire mes collègues du Conseil d'État quand je leur raconte ça, parce que je connaissais absolument rien à la vie de l'administration, au point que lorsque donc le ministre m'a laissé dans ce bureau, qui était l'ancien bureau du secrétaire d'État François Ostalier, donc j'avais un bureau qui faisait 50 mètres carrés avec vue sur le jardin, c'était assez surprenant. Et c'était pour préparer les états généraux de l'université, dont est née la semestrialisation. Je suis quand même assez fier de cette réalisation, qui n'est pas la mienne, qui est celle de Bayrou, mais voilà, à laquelle j'ai travaillé. Et je me souviens que les secrétaires sont arrivés et m'ont dit « Monsieur, nous allons vous apporter les parapheurs ». Et j'ai appelé ma femme pour lui demander ce que ça pouvait bien être un parapheur qu'elle regarde dans le dictionnaire. Parce que je ne savais pas si c'était une machine à signer. Et donc, c'est vous dire que je ne connaissais rien à la vie de l'administration à laquelle j'appartiens aujourd'hui.
Et vous n'avez pas eu peur comme ça de vous lancer sans savoir même, sans connaître ce vocabulaire administratif
J'y étais, donc il n'y avait plus qu'à nager.
La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in strani suoi, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi, mertatevi. A venir migliore. Giorgio Germont. È tardi. Attendo, attendo. Io mi giungo a noi. Oh, come sono tanto. Ma il dottore a sperar pure mi sorde. Oh, quanto è morto.
Kirihite Kanawa interprète avec le chœur et l'orchestre du Mai musical florentin sous la direction de Zubin Mehta l'acte 3 de la Traviata de Verdi, Teneste la promessa, attendo ne a me giungo mai. C'est donc un extrait de la Traviata pour vous, Camille Pascal, parce que on parlait de l'Italie tout à l'heure, on a écouté Handel en Italie. Maintenant,
et là,
c'est
on a la petite sœur d'Armide.
Voilà.
Voilà. C'est pas la même époque, c'est pas les mêmes conditions, mais c'est mourir d'amour. Et il y a dans cette musique italienne, comme avait dit, je crois, l'empereur Joseph II à Mozart, il y a trop de notes et c'est ce que j'aime. C'est-à-dire qu'il y a trop. C'est trop, c'est trop riche. C'est une musique luxuriante. Voilà. Voilà. Moi, j'aime les génies qui débordent. Je n'aime pas les génies au carré.
Oui, d'ailleurs, lui, il avait répondu, il n'y en a pas une de trop.
Non,
voilà.
Il n'y en a pas une de trop. Et d'ailleurs, et puis c'est encore, c'est une musique qui n'a pas besoin, me semble-t-il, d'antichambre, qui n'a pas besoin d'un... C'est très français, ça, vous savez, le long processus initiatique qui va vous permettre de comprendre un jour le génie. Non, non, c'est sensible, c'est directement vous voilà, même sans aucun outillage culturel ou mental, vous pouvez quand même directement, me semble-t-il, communiquer, y accéder. Et je pense que l'art doit être accessible, sinon il est une religion.
Bah vous m'ôtez la question de la bouche parce que justement je me posais la question par rapport à cet art populaire là qui est vraiment l'opéra, c'est l'art populaire par excellence. Est-ce que c'est une question importante pour vous, Camille Pascal, avoir accès à l'art de manière directe?
Je suis un paresseux qui s'est guéri, moi, donc j'aime bien que les choses soient directement accessibles. Et j'aime bien communier, hein, mon côté catholique. J'aime bien que les autres participent à côté de moi et donc profitent en même temps que moi du plaisir que j'ai à écouter ou une musique. Et en Italie, c'est beaucoup moins cucéré qu'en France. Si vous êtes à l'opéra, Garnier, d'abord il y a ceux qui comprennent rien, il y a ceux qui ne savent pas, il y a ceux qui font comme s'ils savaient. Alors ça c'est épouvantable. Simplement, vous pouvez ne pas savoir, vous pouvez pas connaître, vous pouvez vibrer avec la musique. Si vous dites bravo à l'opéra, ici, des gens vous regardent en disant mais quelle est cette énergie humaine. D'ailleurs, rien que pour les emmerder, je dis bravi, comme ça fait encore plus noble. Mais en Italie, voilà, on vit la musique et on la vit de façon charnelle et pas cartésienne.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Donc de la musique charnelle au programme de Musique et moi ce matin avec Camille Pascal qui est l'invitée de Musique et moi sur France Musique. Je me disais en vous écoutant qu'au fond, ce disque de John Sutherland a joué un rôle déterminant.
Déterminant.
C'est ça, hein ?
Déterminant. Déterminant parce qu'en plus c'était des auteurs que personne connaissait. Paisello, Arnay, Handel était davantage connu, mais déterminant parce que cette sonorité me reste.
Thank you.
Un extrait de La Passion selon Saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach, interprété par l'Académie für Alte Musik de Berlin avec le chœur de chambre du RIAS de Berlin, le chœur d'État et de la cathédrale de Berlin sous la direction de René Jacobs. Alors Camille Pascal, on en vient à, presque au moment crucial parce que vous dites que c'est une œuvre qui vous convainc de la présence de Dieu.
Ah, pour moi, c'est la preuve arithmétique de l'existence de Dieu. C'est une musique qui vous fait comprendre à la fois ce qui est l'espérance et la consolation.
Et ça, ça serait la présence, selon vous. Hein.
Voilà, c'est le christianisme. Hein. Et que le christianisme ait donné, Dieu sait si le christianisme a produit de beauté dans le monde, mais alors là, on est au sommet.
C'est une œuvre que vous écoutez beaucoup, le dimanche,
très souvent,
par exemple.
Le dimanche, oui. Ouais, si je ne suis pas allé à la messe, j'écoute la Passion, je me dis que je serai pardonné.
Oui, et puis vous disiez aussi que ça pouvait réconcilier avec le genre humain et la vie en général. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Camille Pascal?
Écoutez, je trouve que c'est une musique, je vous dis, consolation à espérance. C'est une musique qui, d'abord, démontre que l'homme peut essayer de se placer au-dessus de la contingence, donc qu'il y a quand même une voie vers la transcendance, et que la musique ouvre les cieux, c'est son rôle, comme la peinture baroque, elle ouvre les cieux, et qu'il y a un optimisme dans cette musique qui est immédiatement palpable. Voilà, donc quand j'ai pas le moral, j'écoute Bach.
Mais alors, précisément, vous, Camille Pascal, qui avez été plume à quelques reprises, est-ce que vous étiez préoccupé par ces questions d'adhésion avec la vie, c'est-à-dire d'être en conformité quand on écrit avec des valeurs qui nous sont propres et avec cet idéal de vie d'écrire l'instant?
Alors, ça dépend, parce que quand vous écrivez pour un autre, ce qui m'est arrivé, et cet autre a été le président de la République, vous êtes mercenaire d'une certaine façon, c'est-à-dire que vous devez mettre ce qu'on considère comme votre force à sa disposition. Et là, il faut servir, en réalité. Il faut servir à la fois l'homme et la fonction qu'il incarne. Donc, il faut faire le sacrifice de son moi.
Oui.
Hein, c'est un exercice de quiétisme, si vous me passez cette expression qui renvoie à une sorte de une pratique de la religion au XVIIe siècle. C'est abandonner son propre moi pour se laisser envahir par le moi de celui que vous devez servir et parler pour lui. C'est un exercice extrêmement particulier d'anéantissement de soi. Donc ça, c'est l'écriture mercenaire. Et après, il y a l'écriture que l'on pratique soi-même, c'est-à-dire ce que l'on écrit pour soi. Là, c'est différent, parce que même si moi, je me donne beaucoup de contraintes dans l'écriture, parce que je conçois la création comme le fait de surmonter des contraintes, et donc, ce sont des contraintes, mais que l'on s'impose soi-même, pas les contraintes qui vous ont été imposées par celui pour lequel vous écrivez. Et c'est vrai que c'est un exercice extrêmement particulier que d'avoir été l'auteur pour quelqu'un d'autre, soit des discours ou même des livres. Il m'est arrivé d'écrire des livres que je n'ai jamais signés, ou d'être l'auteur pour soi. Et c'est vrai qu'il y a une schizophrénie. Mais d'un autre côté, le fait d'écrire pour les autres vous oblige d'une certaine façon à vous oublier et parfois s'oublier un peu dans l'écriture, ou en tout cas s'oublier consciemment dans l'écriture pour laisser l'inconscient sourdre, eh bien c'est peut-être pas plus mal.
Ça vous a peut-être été utile pour l'écriture de votre propre roman, par exemple L'été des quatre rois.
Oui, alors L'été des quatre rois, c'est particulier. Parce que L'été des quatre rois, c'est essayer de rendre visible le passé et pas nécessairement mon moi.
C'est vraiment faire jaillir le passé.
Oui.
En vous.
Ben, en essayant d'être une sorte de guide ou de regard du lecteur pour lui permettre de vivre des événements qui ne sont plus.
Ah, l'historien était toujours là alors.
Thank you.
un extrait du livre 1 des pièces de clavecin de Claude Balbastre, interprété par Christophe Rousset. Alors ça fait partie de vos derniers coups de cœur, Camille Pascal. C'est une question que je pose généralement. Et vous, ça vient tout droit d'une plateforme d'écoute.
Oui, exactement. Qui proposait, c'est une nouveauté, j'avais pas entendu. J'adore le clavecin. Hein. Je trouve qu'il y a dans cet instrument un mélange de gravité et d'insouciance qui me touche beaucoup. Et quand j'avais 15-16 ans, j'avais demandé à ma mère de prendre des cours de clavecin. Enfin,
ah oui.
Trouver un professeur de clavecin à Montpellier en 1982-83, c'était assez compliqué. Et puis, voilà, après j'ai fait mes études. Bon, mais j'ai, pour le son du clavecin, une affection particulière. Et je trouve cet enregistrement absolument magnifique. Absolument, c'est Rousset, est un interprète. On entend le toucher, enfin, ouais. Presque la respiration de la musique. Sincèrement, je ne connais pas, mais je trouve que c'est un interprète hors du commun. Et cette musique de Balbastre, je la mets maintenant quand je n'arrive pas à me mettre à écrire.
Pourquoi ?
Parce qu'elle est entraînante. Donc, tout d'un coup, on se dit, bah, allez, je vais aller écrire.
Ah oui, alors justement, on en vient à cette question qu'on avait abordée au début de l'émission. Vous n'écoutez pas de la musique quand vous travaillez. Par exemple, au Conseil d'État, vous n'avez pas un casque sur les oreilles quand vous travaillez sur vos dossiers. Pourquoi ? Parce que la musique vous prend...
Parce que je m'échapperai tout de suite. Mmh. En revanche, je peux écouter de la musique en écrivant. Ça ne me gêne pas. Non. Mais j'essaie de trouver une musique qui soit en accord avec ce que je vais avoir à décrire. Voilà. C'est vrai que je n'ai pas une pratique itinérante de la musique. C'est-à-dire que je ne peux pas pratiquer la musique itinérante. C'est-à-dire que je ne peux pas marcher dans la rue en écoutant de la musique. Je ne peux pas être dans le train en écoutant de la musique. C'est vrai que j'ai une écoute sédentaire, alors évidemment au concert, etc. Mais chez moi. Voilà.
Et est-ce que, donc vous disiez que vous pouviez écrire en musique, est-ce qu'une musique, par exemple Claude Balbastre, peut vous aider dans un procédé d'écriture historique, justement, pour vous plonger dans une atmosphère?
Oui, mais là, c'est surtout l'encouragement. Voilà, c'est une musique encourageante. Et puis après, il y a des musiques qu'on écoute, j'allais dire, d'une oreille distraite, ce qui n'est pas très agréable, mais voilà, dont on sait que elle peut permettre de construire l'isolement dont vous avez besoin pour l'écriture.
On va se séparer déjà,
c'est bien triste.
Camille Pascal, oui, c'est dommage. On va se quitter avec Nicolas Fagot et avec un interprète, je crois que vous avez encore découvert récemment, c'est Jakub Józef Orliński.
Oui.
Est-ce que là, c'est pareil, c'est sur la plateforme
d'écoute? Oui, je le crains.
Oui. Merci beaucoup d'être venu partager cette heure et demie en notre compagnie. Et puis, ben, bon retour au Conseil d'État. Et puis, on vous attend pour un prochain roman.
Oui, après.
Ah, oui, quand même. Alors, je rappelle que L'été des quatre rois a paru chez Plon et a reçu le prix de l'Académie française en octobre dernier.
En octobre dernier.
Merci beaucoup.
C'est moi.
La gente addio di lei.
Un extrait du disque de Jakub Józef Orliński avec Il Pomodoro, qui interprète donc Nicolas Fago, pour terminer cette émission en compagnie de Camille Pascal, qui était donc l'invité de Musique et Moi ce matin. Prise de son Delphine Baudet, réalisation Sophie Pichon, attachée de production Marie-Ferdinand. Je vous souhaite une très belle semaine à l'écoute de France Musique. On se retrouve dimanche prochain à 11h. D'ici là, portez-vous bien.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.